Cinéclub Actu.
Bien, bonjour à tous sur Radio Campus Po. Et on se retrouve pour une nouvelle saison de Cinéclub Actu, votre émission cinéma favorite, bien sûr. Et cette année, on continue le même format sur les sorties et les actus du mois autour, bien évidemment, du cinéma. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle équipe composée de Jade et Melvin, venus de Thème Ciné, une émission fantastique que vous devez écouter. Bonjour Jade et Melvin.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous?
Ça va. Hein.
Ça va très bien et toi?
Parfait. Est-ce que vous êtes heureux de rejoindre cette émission?
Ah, carrément.
Je te dis ça à la fin. Mais oui, évidemment.
Parfait. Et écoutez bien sûr Thème Ciné et notre émission sur l'application et le site Radio Campus Po. Fait un petit peu de pub, voilà. Donc on va commencer par les sorties du mois, puisque c'est un mois de novembre très chargé en sorties. On en a sélectionné 6 que vous devez aller voir en salle. Et le premier, c'est Le Garçon et les Hérons, qui est réalisé par Hayao Miyazaki et qui sort le 1er novembre. Alors, Hayao Miyazaki, 82 ans, c'est probablement le réalisateur d'animation le plus connu au monde. Et il est de retour avec ce qui devait être son dernier film.
Comme donc, d'hab.
Le Garçon et le Héron, donc en salle depuis le 1er novembre. Et donc, vous connaissez sûrement Miyazaki, mais c'est le réalisateur du Voyage de Chihiro, de La Princesse Mononoke, de Château dans le Ciel, etc. etc. Et donc, le petit synopsis du film, c'est « Après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur une immense domaine où il rencontre un héron cendré, d'où le titre, qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. » Alors, si je vous en parle, c'est parce que je l'ai vu et je ne spoilerai rien, mais c'est vraiment un film fantastique, un grand film d'animation. C'est un grand film tout court. C'est un film qui a plein de messages à lire entre les lignes. Ça fait réfléchir, quoi. Et c'est sur la vieillesse. Du coup, ça résonne avec la vie du réalisateur, sur l'humain, l'environnement, la société, etc. Tout plein de sujets chers à Miyazaki. Et l'animation, il est toujours super, bien sûr. L'histoire est touchante. Et donc, il faut absolument aller voir ce film, puisque c'est sûrement un de ses derniers, vu son âge. Faut en profiter tant que c'est au cinéma.
Méfie-toi. Hein. Chaque fois, c'est le dernier, je rappelle.
Certes. Mais c'est vrai qu'il avait annoncé sa retraite avec ce film, puisqu'il y travaillait dessus depuis 2016. Mais au final, lors des interviews, tout ça qu'il a accordé, pour la sortie de ce film, il a dit que non, il en ferait un autre. Bon, moi, je lui pardonne, parce que personnellement, avoir un film de plus, bon, moi, ça me régale. Mais voilà. Vous avez vu, vous aimez bien, vous, le cinéma de Ghibli, de Miyazaki, tout ça. Est-ce que vous en avez vu?
Alors oui, ouais, j'ai beaucoup aimé les films de Miyazaki, notamment Le Château Ambulant, que j'ai particulièrement aimé.
Bah oui, parce qu'on vous invite à aller voir Le Garçon et le Héron, mais aussi à regarder toute sa filmographie aussi, bien évidemment.
Ah, j'en ai vu 0.
Zéro. Regarde.
Ouais. Bah oui, mais je sais, ça fait un moment, mais j'arrive pas à trouver la motivation, c'est pas un cinéma qui m'attire. Or que l'animation m'attire beaucoup, mais pas celle-là.
Je vois.
Voilà.
Ça peut être compréhensible.
Mais un jour, je me lancerai, oui.
Ok. Donc la deuxième sortie principale du mois.
Five Nights at Freddy's. Je ne conseille pas forcément d'aller voir, mais ça reste quand même un très gros événement dans le mois. Donc c'est adapté de la licence de jeux vidéo de 2014, qui, je l'ai appris, compte 9 épisodes. Ce qui est assez énorme. Et donc, c'est l'adaptation en film par Blumhouse, avec Josh Hutcherson, le fameux. Et donc, ça raconte l'histoire du personnage de Josh Hutcherson qui est gardien de nuit dans une pizzeria, avec des animatroniques qui prennent vie, qui sont un peu méchants, qui tuent parfois des gens. Bon.
Pourquoi pas?
Et alors, je l'ai vu. Et c'est pas forcément bon, mais. Il y a du bon, des animatroniques sont très très bons en termes d'effets spéciaux. Et surtout, c'est le plus gros succès de film d'horreur de l'année, qui vient de battre la Nonne 2. Donc c'est comme un sacré événement,
ah oui,
qui était très attendu.
Parce qu'il y a eu des sacrées sorties horreur cette année. Fin...
Ouais, bah, c'était la None 2 avant.
Ah ouais.
Comme quoi, le public a du goût. ouais, non, lui vient de le battre, il passe au-dessus avec un nombre d'entrées assez hallucinant. Pour comparer à la sortie de Marvel, ce qui est sorti une semaine plus tard, c'est catastrophique. Et Final Freddy's reste au-dessus encore aujourd'hui, quoi.
Oui, oui. Mais c'est une saga pas mal connue chez les joueurs de jeux vidéo et tout, donc ça a ramené du monde en salle, je suppose.
Oui, voilà.
Voilà. Ça peut être compréhensible aussi.
Et du coup, j'en profite pour conseiller le film Willy's Wonderland, qui est un Final Freddy's en plus intéressant et beaucoup plus fun, et avec Nicolas Cage. Voilà. J'ai rien contre Josh Hutcherson, mais Nicolas Cage, quoi. Et voilà.
Ok. Pourquoi pas.
Alors moi, je vais vous parler de Little Girl Blue, que je n'ai pas vu, qui est sorti le 15 novembre. C'est un film franco-belge réalisé par Mona Achache. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film hybride. C'est-à-dire qu'il y a une alternance entre documentaire et fiction sur la vie de sa mère, Carole Achache. Qui est d'ailleurs incarnée par Marion Cotillard. Pardon. Alors le film a été présenté en avant-première au Festival de Cannes cette année, en 2023, dans les sections, dans la section séance spéciale. Alors ce film, il nous offre la découverte d'une dynamique, de la dynamique entre guillemets, entre les relations mère-fille, qui sont marqués par une certaine intensité, par leur différence de degré de passion et les bouleversements, la folie qui parfois nécessite le recours de distance entre les deux personnes. Alors le drame se déroule brutalement avec la découverte du suicide de la mère de Mona Achache le 1er mai 2016. Alors elle est âgée de 63 ans. Elle est retrouvée pendue dans son appartement, laissant derrière elle des cartons remplis de documents tels que de la photographie, des lettres, films, enregistrements sonores. Et tout cela laissant sa fille devant des questions sans réponse.
Ah oui.
Voilà, il a l'air pas mal. J'ai pas regardé la bande-annonce comme d'habitude parce que je déteste ça. Mais je trouve que le fait de s'être servi de documents réels, que ce soit hybride entre de la fiction et un côté documentaire, j'aime beaucoup ça. Moi, je vais aller le voir et je vous conseille d'aller le voir et de me dire ce que vous en dites. Voilà. Ah oui.
Moi, perso, ça me fait plaisir de voir Marion Cotillard dans ce genre de rôle parce que ça me prend plein la figure alors que je trouve que c'est une actrice qui joue super bien. Le problème, c'est que souvent, elle fait des mauvais choix de carrière.
Oui.
Du coup, avoir des rôles comme ça, permet de rappeler aux gens qu'elle est forte quand même.
Tu veux parler des films de son mari ? Guillaume Canet.
Ah oui. Oui. Mais oui, elle avait fait Annette il y a 2 ans. Bon, voilà. Je n'aime pas du tout Annette, mais au moins c'est un rôle dans un film d'auteur. Tout ça.
Oui, c'est pas Astérix, quoi. Juste la fin du monde. Elle avait été pas mal dedans. Bon, tous les acteurs ont été pas mal dedans.
Pas faux. Donc, la troisième grosse sortie du mois, c'est Napoléon, réalisé par Ridley Scott. Sorti le 22 novembre. Donc Ridley Scott, 85 ans, réalisateur pour ses films les plus connus de Blade Runner, Gladiator et Alien, et plus récemment Le Dernier Duel, revient avec un film de 2h37 sur la vie de Napoléon Bonaparte, de son ascension pendant la Révolution jusqu'à sa mort à Sainte-Hélène 30 ans plus tard. Donc Joaquin Phoenix, que vous connaissez sûrement donc, récemment pour son rôle dans Joker, mais il a aussi fait Gladiator, Her, Inherent Vice, incarne Napoléon, et Vanessa Kirby, donc dans Mission Impossible et The Crown, surtout ses plus grands rôles pour le moment, incarne Joséphine de Beauharnais. Donc je ne peux pas mieux résumer le film qu'une biographie très romancée de Napoléon sur une période de 30 ans. Et j'avais très peur, puisque j'ai vu le film, j'avais très peur qu'en 2h37, Ridley Scott n'ait pas le temps de tout raconter. Et oui, il raconte pas tout, mais il n'y a pas ça, on dirait pas que c'est rusher, quoi. On, vraiment, ça prend son temps. C'est plutôt le rythme est bien fait, quoi. Et il a aussi dit qu'il avait préparé une version de 4h30 qui sera disponible sur la plateforme d'Apple dans un futur proche, on ne sait pas trop quand. Donc mon avis sur le film, c'est qu'il faut y aller en ayant une envie de divertissement, mais rien d'autre. C'est-à-dire on veut des grandes scènes d'action, on veut de la romance, mais on ne veut rien de historiquement réel. Et moi, j'y suis allé en m'attendant à des grosses scènes de bataille. J'ai eu des grosses scènes de bataille, je suis content. Voilà. Et voilà, j'incite à aller le voir quand même pour faire votre avis sur la question.
Même si moi, personnellement, ce film me fait très peur. Et je ne sais pas si je le verrai parce que, du fait du réalisateur, mais aussi, comme je vous l'ai dit, la saga avec Christian Clavier, suffit, je pense.
Oui, oui. Puis Ridley Scott, c'est une fois sur deux aussi ces dernières années.
C'est vrai. Mais moi, je suis un des rares défenseurs de House of Gucci de Ridley Scott. C'est
de
un
Charles
film
Pieto.
Universellement détesté, qui est sorti il y a deux ans, le dernier Ridley Scott, du coup.
Charles Leto italien, quoi.
Moi, j'ai beaucoup aimé, personnellement. Et après, c'est toujours intéressant. C'est quand même un grand réalisateur, Ridley Scott. Il arrive bientôt à un âge où il ne pourra plus faire des films.
Ah, méfie-toi, regarde Clint Eastwood, hein. Il est en train de tourner un nouveau film.
Ouais, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. mais Ridley Scott, lui, l'enchaîne. Du coup, voilà.
Et mais c'est toujours un événement où il y a pas un Ridley Scott. C'est comme un Scorsese, un Spielberg.
Voilà, ça ramène du monde.
C'est ça. Donc la prochaine sortie.
Non, le 29 novembre, il y a Dumb Money qui sort. Donc réalisé par Craig Gillespie. Vous avez pu voir Moi, Tonya ou Cruella. J'ai beaucoup d'estime pour moi, Tonya, un peu moins pour Cruella, mais bon.
Pareil.
Est-ce que c'est les studios derrière? Peut-être. Dumb Money, ça raconte l'histoire, grosso modo, pour faire simple, c'est le GameStop. L'entreprise a chuté dans les années 2010.
Oui, GameStop, c'est un peu le Micromania.
Américain. Ça a chuté et là, il y a des gars sur Reddit, des jeunes qui ont dit hey, « Eh, mais si on rachetait les actions maintenant qu'elles sont pas chères ?» Et ce qui a un peu affolé la bourse, donc c'est toute l'histoire de cet achat d'actions. Un film sur la bourse, quoi, grosso modo, avec un casting 5 étoiles. Il y a Paul Dano, il y a Seth Rogen, Shailene Woodley, Sebastian Stan, et Pete Davidson. Et le film a l'air très intéressant. Moi, c'est le film de bourse, c'est un truc où je comprends, mais je veux dire, c'est toujours un peu compliqué et tout. Et pourtant, je trouve ça fascinant. Et lui a l'air de rentrer dans cette catégorie. Après, j'ai un peu peur que ce soit quand même une histoire très récente. Est-ce que c'est vraiment pertinent de faire un film maintenant? Je ne sais pas. Oui. Ça, c'est quand même 2020, le rachat des actions. Donc,
Est-ce que c'est une comédie? Parce que j'ai vu la bande-annonce, on aurait dit une comédie. Mais...
C'est un peu comme le Loup de Wall Street, tu vois. C'est pas comédie, mais c'est un ton léger. Tous ces films de bourse, en fait, ou d'histoires vraies sur les arnaques et tout. Mm-hmm. Ça a toujours ce ton un peu comique, mais en étant sérieux. Je pense que ça sera comme ça, parce que je ne l'ai pas vu, que ça sort la semaine prochaine, le 29 novembre. Et qu'on n'enregistre pas du tout le 29 novembre.
Ok. Bon, ça peut être intéressant. Paul Dano, c'est un super acteur.
Oui, voilà, le casting est quand même assez dingue.
Okay.
Et pareil, Seth Rogen dans un rôle plutôt sérieux, ça change.
Ouais, mais il avait déjà été dans Fablemans. Fantastique.
Oui, voilà, mais ça lui va bien, alors qu'on le connaît.
J'en fais toujours la pub. Regardez-le.
Je ne râlerai pas.
Je reste mitigé.
Et la dernière grosse sortie du mois.
Alors, moi, je vais vous parler de La Tresse, qui va sortir le 29 novembre de cette année, 2023. Alors, c'est un film qui est réalisé par Laetitia Colombani, mais elle est également l'auteur de La Tresse, qui est à la base un livre. Paru chez Grasset en 2017. C'était un best-seller. Il a fait plus de 100 millions de ventes dans le monde. Alors, c'est son troisième long métrage. Et du fait de multitudes de critiques, Ce film et ce livre est très émouvant. Il décrit un témoignage, enfin, il est décrit comme un témoignage d'espoir et de solidarité féminine. Alors, on va rencontrer dans ce film trois femmes, une en Inde, une en Italie et une au Canada. Comme son résumé le présente, nous découvrirons trois vies, trois femmes éloignées l'une de l'autre, mais symboliquement très proches. Alors, au casting, on va retrouver une des stars de Grey's Anatomy, Kim Raver, ainsi que l'actrice italienne Fitoni Peluso, excusez-moi pour mon accent italien, récemment croisée dans La Salade grecque, qui a pas mal marché apparemment, et la star indienne Mia Maleses. Encore une fois, excusez-moi pour mon accent. Alors, très personnellement, je suis mitigée encore une fois. Du fait du pathos qui peut être utilisé parfois à très mauvais escient, surtout dans ce genre de film. Après, là, c'est vrai, j'ai regardé la bande-annonce. Mais c'était pour vraiment voir et pas avoir de jugement, enfin, de personnes aigries, comme je...
T'as eu raison.
Je le suis un peu, j'avoue. mais du coup, après, il fait peur parce que ça peut être vraiment dans le pathos, mais il peut être intéressant. Il peut être intéressant à tester. Voilà.
C'est intéressant, c'est un film, j'ai l'impression, un peu international. C'est franco-belge, avec plus de stars indiennes, italiennes. Ça peut être intéressant.
Ouais, mais ça peut aller dans les caricatures.
Aussi,
ouais. Voilà, ça met dans tous les sens du terme. Hein. Parfois, peut-être, même les scènes qui peuvent être dures, parfois, elles peuvent être romancées ou idéalisées. Et j'ai un peu peur de ça, quoi. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que c'est un film pour faire pleurer ou est-ce que c'est un film pour montrer la réalité à voir.
Ok. Bah, écoutez, vous aurez la réponse si vous allez le voir en salle le 29 novembre. Mm. Vous, spectateurs, auditeurs, plutôt,
ouais,
bien sûr.
Exactement.
Et donc, il y a plein d'autres sorties ce mois-ci dont on n'a pas pu parler. Parce que, par exemple, il y avait le nouveau film de David Fincher, The Killer, qui est sorti le 10 novembre sur Netflix. Donc, c'est le réalisateur de Fight Club, de Seven, de Gone Girl pour ses films les plus connus.
Zodiac
aussi, oui. Sur Netflix, c'est disponible. Vous avez aussi eu le nouveau film du Marvel Cinematic Universe, The Marvels, qu'on parlait tout à l'heure. Vous pouvez aller le voir en salle aussi. Et plein d'autres films que j'oublie sûrement.
Alors, citer deux, Hunger Games, c'est comme un sacré événement.
Allez voir le préquel d'Hunger Games, il est vraiment bien. Il est vraiment bien.
Et surtout le nouveau Disney aussi, Wish. C'est quand même le nouveau classique d'animation Disney, c'est pareil, c'est un petit événement pour le studio. Surtout que c'est leur 100 ans, donc...
C'est vrai.
Voilà, pour les citer.
Allez le voir. Et on va passer aux actualités du mois sur les films. Si vous écoutiez Ciné Club Actu l'année dernière, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait une grosse grève des scénaristes en cours à Hollywood, donc il n'y avait plus aucun projet qui était en train d'être écrit. Et bien en juillet, les acteurs les ont rejoints, donc ce qui fait que jusqu'en septembre, les acteurs et les scénaristes étaient en grève. Ce qui fait qu'Hollywood était un peu à l'arrêt.
Un peu beaucoup.
Heureusement, les scénaristes ont trouvé un accord avec les gros studios en septembre, qui leur garantit plus de sécurité sociale, globalement, tout ça, tout ce qu'il n'y a pas aux États-Unis, quoi.
Et sur les IA aussi
sur
beaucoup.
Les intelligences artificielles et tout. Et en gros, les acteurs demandaient un peu la même chose. Et le 9 novembre, les studios ont enfin accepté une partie de ce que les acteurs demandaient depuis des mois. Et donc, ce qui fait que donc, les deux grèves sont terminées aujourd'hui. Donc, ça fait partie des grèves les plus longues d'Hollywood. Et j'ai vu sur Wikipédia notamment qu'il n'y avait pas eu les acteurs et les scénaristes en grève en même temps depuis les 1960. Donc, vous voyez comment c'est historique. Mais donc, puisque la grève des acteurs est terminée, on a tout le gratin des films d'Hollywood qui a pu recommencer leur tournage qui avait été interrompu en juillet. Donc on a notamment Deadpool 3, Venom 3, Beetlejuice 2 de Tim Burton, Gladiator 2 de Ridley Scott, puisque oui, il y a une suite à Gladiator en préparation. Et il y a, surtout, ce qui m'intéresse le plus, le dernier film de Clint Eastwood, 93 ans, qui réalise Juror, donc Juré en français, numéro 2, qui sortira donc probablement l'année prochaine. Donc c'est son dernier film, donc c'est un événement pour moi, puisque quand même Clint Eastwood, niveau de légende d'Hollywood, c'est compliqué de faire plus haut, quoi. En acteur, en réalisateur, tout ça.
En âge.
En âge aussi, oui. C'est-à-dire 93 ans, il réalise toujours des films.
Il joue quoi. Aussi. Il fait les deux.
Oui, mais je crois que dans Juré numéro 2, je ne sais pas s'il jouera.
Ah, je ne sais pas, mais sur le dernier, il jouait. Enfin, c'est impressionnant oui. quoi, de réaliser et jouer à cet âge-là.
Tout à fait. Et en faisant de la qualité, toujours. C'est ça, en fait. Oui, si c'était nul, bon, voilà. Mais c'était vraiment... C'est sympa, quoi. Ces films ne sont pas à rater. Sont à ne pas rater, plutôt. Et voilà. Et donc, il y a un autre film qui a été impacté par la grève. Mais ça, c'est Melvin qui vous en parle.
Et oui, parce que moi, je suis à caution grand public.
Donc, c'est bien connu.
Donc, j'ai parlé de Superman Legacy. Ce qui est quand même donc, le renouveau du DCU par James Gunn et Peter Safran. Donc, Superman Legacy réalisé par James Gunn, qui était donc à l'arrêt. Enfin, le scénario avait du coup un peu continué, mais les annonces de casting très attendues étaient à l'arrêt. Et là, ça en est quand même pas mal de révélations. Donc, on avait déjà David Corenswent en Superman et Rachel Brosnahan en Lois Lane. Et je m'excuse pour leur nom imprononçable et mon bel accent anglais. Et donc là, on vient avoir trois plutôt grosses révélations. Parce qu'on a Nicolas Hoult en Lex Luthor. Donc, Nicolas Hoult, vous l'avez vu, c'est le fauve dans les X-Men. C'est le mec chauve et tout blanc dans Mad Max Fury Road. C'est plein d'autres dans Le Menu récemment.
Très vrai. Ouais.
Dans Renfield. Enfin,
il avait fait un biopic de Tolkien.
Oui, aussi. Il fait un peu de tout.
Ouais.
C'est bien ou pas bien, je ne sais pas, mais il fait un peu de tout. Donc lui, dans le rôle de Lex Luthor, donc, un des méchants du film, parce qu'il y en aura plusieurs. On a Skyler Gisondo en Jimmy Olsen, qui est un personnage quand même assez attendu, ce qu'on n'avait jamais vraiment vu dans les anciens films. Et lui, on l'a vu dans surtout les comédies Vive les vacances, La nuit au musée, ou la série sur Resort cet été. Et on a Sarah Sampaio qui jouera l'assistante de Lex Luthor. Alors, je pourrais pas dire grand chose sur elle, c'est une mannequin portugaise. Voilà.
D'accord.
Mais je fais confiance à James Gunn et ses choix de casting, parce qu'en général, c'est quand même assez bon. Et ça sort le 9 juillet 2025. La date n'a pas changé. C'est un des rares films où la date n'a pas changé,
ouais.
Malgré la grève.
Mais ça, je crois que c'est parce que James Gunn se met très en avance au niveau de ce qui tourne.
Oui.
Suicide Squad, il l'avait tourné en 2019 pour une sortie en 2021. Alors, même si ça avait été un tout petit peu décalé à cause du Covid, c'est ce qui était prévu de base. Et justement, c'est le fait qu'ils se mettent tout le temps en avance comme ça, ça permet, quand il y a une grosse grève, d'amortir les délais, quoi. Et du coup, ça tourne en mars aussi, je crois.
Ouais, il me semble. Et puis, comme il doit gérer en plus tout l'univers, parce que là, il réalise, mais du coup, il produit l'univers. Et ouais. C'est lui qui coordonne les autres films.
Bon, on lui souhaite bien du courage quand même, parce
qu'il
y a une masse de travail assez énorme.
Mais là, du coup, en projet, on a Creature Commando en série animée, qui sera plus tard un film. Enfin, les acteurs qui doublent seront les acteurs dans les films après. On a possiblement un projet The Authority, une espèce de Suicide Squad chez DC, quoi. Enfin, Suicide Squad, c'est chez DC, vous allez me dire, mais c'est un peu le même principe. Et la rumeur serait sur Matthew Vaughn.
Ah,
moi, ça me va.
C'est vrai. Et il y avait un film aussi, un nouveau film Batman prévu.
Ouais.
Avec, malheureusement, le réalisateur de ça, mais aussi de The Flash. Andy
ouais, mais après, ouais, mais ça change tous les 4 matins. Oui, je me demande si ça peut encore changer ça. Mais oui, Batman and the Bold, qui aura sur la relation avec Robin, pour le coup. Qui est pareil, ça n'a jamais été très, très. Parce que non, je ne compte pas Batman et Robin. Ça n'a jamais été très travaillé. Donc c'est cool de voir ça aussi. Enfin, moi, j'y crois en cet univers. J'y crois. J'ai envie d'y croire. J'aime James Gunn, et donc toutes les cases sont cochées pour que ça me plaise.
Okay. Alors moi, je vais vous parler d'Agnès Varda. Alors, vous la connaissez certainement. Elle est souvent représentée comme une femme forte, émancipée, se redéfinissant sans cesse et avec une envie d'expérimenter. Alors elle est connue dans divers domaines, toujours poussée par un désir de se connecter avec les autres, transcendant les efforts, les frontières conventionnelles. avec ses longs métrages, ses fictions et des documentaires, et ainsi que sa transition au cinéma numérique, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, elle est connue pour avoir eu cette envie de se libérer un peu des codes. À une époque où les femmes étaient encore soumises aux codes anciens, elle a fait des choix modernes dans les aspects matrimoniaux ou émotionnels et familiaux. Alors, c'est pour cela que la très célèbre Cinémathèque nous propose depuis le 15 octobre au 27 janvier une exposition offrant une redécouverte de ses projets. On assistera aussi à la diffusion, la rediffusion qui était sortie, si je ne me trompe pas encore une fois, le 30 août, le documentaire Viva Varda. Et ajouté à cela, la Cinémathèque nous propose des rencontres telles qu'avec Rosalie Varda, sa fille, mais qui est également la fille adoptive de Jacques Demy. Et voilà.
Oui, parce que Jacques Demy était le mari de Agnès Varda, je crois.
Oui.
C'était le réalisateur du coup de Parapluie de Cherbourg et de Demoiselles de Rochefort pour les films les plus connus.
Oui.
Et alors oui, Agnès Varda, ce qui est intéressant, c'est que c'est une réalisatrice qui a commencé dans les années 50. Et c'est une des rares réalisatrices connues aujourd'hui qui a exercé dans ces années-là. Donc des années 50 jusqu'en 2019 à sa mort. Malheureusement, elle est décédée parce que du coup, au bout d'un moment, elle avait un certain âge. Mais jusqu'à la fin de sa vie, elle a tourné des films, des documentaires. Et je vous incite vraiment à regarder ces... un film au moins d'Agnès Varda. Il y en a beaucoup disponibles sur Arte en ce moment. Viva Varda est d'ailleurs disponible sur Arte.
Et voilà, c'est ça. Alors
c'est gratuit, alors c'est génial.
Exactement.
Et alors, vous connaissez peut-être La Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, François Truffaut, ça c'est une inconnue. Mais voyez, pour moi, la troisième plus grosse figure, enfin en termes de renommée au moins, ça doit être Agnès Varda sûrement. Et sachant que c'était une femme dans une époque où c'était compliqué, ça force le respect.
Oui.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que elle n'a pas eu une carrière juste sur 10 ans comme certains réalisateurs de la Nouvelle Vague. C'est vraiment une carrière sur 60 ans, 70 ans quasiment. Et ça, c'est passionnant de voir son évolution, mais aussi sa grande humanité. Ça transparaît beaucoup dans ses projets. Voilà. Je suppose que vous aimez le cinéma. Enfin, Jade, au moins, tu aimes le cinéma d'Agnès Varda, si tu en parles.
Après, c'est pas celui que je préfère. Si je devais parler de réalisateur de cette époque, je parlerais de Claude Chabrol. Que j'apprécie tout particulièrement. Mais oui, après, je vous conseille vivement d'aller voir ce documentaire qui est vraiment pas mal. Et voilà. Et ce film, évidemment. Et ceux qui habitent vers Paris, allez voir l'exposition.
Exactement. Alors, figurez-vous qu'un film live-action basé donc sur la célèbre saga de jeux vidéo The Legend of Zelda est en préparation chez Sony Pictures. Et donc le réalisateur sera Wes Ball, le réalisateur des trois Maze Runner et du prochain Planète des Singes aussi, parce que là aussi figurez-vous qu'en mai prochain, il y a un nouveau Planète des Singes qui s'appelle Kingdom of the Planet of the Apes. D'ailleurs, la première bande-annonce est sortie. Et le scénariste, alors autant le réalisateur, j'ai ni vu les Planètes des Singes, vu qu'il n'est pas sorti, voilà. J'ai pas vu les Maze Runner.
Les premiers sont bien.
Ah oui, je vois.
Oh, j'ai vu que le premier.
Et j'ai pas vu les Maze Runner, du coup, je ne juge pas le réalisateur. Par contre, je juge beaucoup le scénariste, puisque ça sera Derek Connolly. Et bien, c'est le scénariste des trois Jurassic World.
Une lumière, comme on dit.
Et de Kong Skull Island.
Le titre veut tout dire.
Il y a Détective Pikachu aussi. Enfin, vous voyez, c'est.
Alors.
Catastrophique, atroce.
Sans ça. Bah non! Alors, Détective Pikachu, ça se tient. Je trouve.
C'est le meilleur film de sa filmographie, donc c'est un problème.
Les Jurassic World, le 1 et le 2.
Non.
Le 2 a de l'originalité, le 1, si on creuse un petit peu, ça passe. Mais alors, Kong Skull Island, je suis désolé, mais je te trouve c'est le mieux écrit de la saga du Monsterverse.
Oui, mais vous voyez, vous avez. Je veux dire, vous avez une boîte avec 5 gâteaux moisis. Il y en a un qui est un peu moins moisi que les autres. Vous n'allez pas le manger.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas le meilleur scénariste du monde.
Oh, ça, tu coupes le bout moisi.
C'est pas le meilleur scénariste, mais en même temps, sur un Kong, tu vas pas faire un film d'auteur, quoi, tu vois. Mais je trouve que dans ce qu'il fait, il n'est pas mauvais dans son domaine. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais...
Ouais, je veux dire, il a quand même écrit Jurassic World Dominion.
Oui, non, lui, par contre, c'est impardonnable. Lui, d'accord, voilà. Ok, voilà. Là, je ne peux rien dire. mais je trouve, par exemple, Zelda... je préfère avoir le scénariste de Kong Sky Island que de Godzilla versus Kong, quoi,
oui, non, mais...
à choisir.
Entre la peste et le choléra, je ne choisis pas.
Oui, oui, bon, d'accord. Mais je décide de le soutenir.
Bon, pour un film Zelda, moi, j'en attendais mieux, quoi. Bon, autant le réalisateur, bon, il a réalisé le prochain Planète des Singes, genre, j'ai confiance en lui, je suppose que...
Alors, pas moi, hein.
Après, tout ce qui est adaptation de jeux vidéo au cinéma, je suis désolée, oui, mais... par exemple, on va parler de The Witcher, c'est une grosse catastrophe. Quoi.
C'est une adaptation de livre, attention. Oui, j'aimerais qu'on soit précis. Vidéo,
oui, c'est vrai, mais il y avait
Je suis bien d'accord avec toi, mais par rapport aux jeux vidéo...
Ouais, oui, oui.
Mais il y avait eu Mario un début d'année qui m'avait donné un peu d'espoir. Là, ils avaient vraiment beaucoup de temps pour respecter le jeu vidéo.
Mais alors, Nintendo c'est justement le problème. C'est respecté, mais niveau scénar, ça va pas loin, quoi.
Oui, tout à fait, mais c'est Mario. Fait pour les enfants.
Oui, voilà, mais si tu fais Zelda... Moi, je pense qu'il peut être compétent sur Zelda, tu vois.
Parce que Mario, ça touche plusieurs générations.
Oui.
Ils auraient pu s'adapter. Il y a eu des dessins animés pour enfants qui correspondaient très bien à un public plus vieux. On peut parler de Shrek ou de Toy Story.
Alors, je suis bien d'accord, mais c'est que je pense qu'aujourd'hui, Universal, du coup, qui faisait le film... fait un blockbuster Mario, ils vont pas se creuser la tête pour faire un truc accessible aux adultes et aux enfants. Eux, ils vont faire un film d'animation joli qui plaît bien aux petits. Et voilà.
Il va faire des entrées, quoi.
Et malheureusement, mais justement, c'est ça le contraste avec Le Garçon et le Héron, qui est un film d'animation au Japon.
Donc, là, tu compares Miyazaki.
Oui, justement, ça montre que les films d'animation, attention, ne sont pas faits que pour les enfants, bien évidemment.
Oui.
C'est juste que dans le cas de Mario, c'était clairement fait pour eux, je trouve. Voilà.
Ouais, mais après, tu vois, les films de Miyazaki, même s'il y a un côté très sombre, est-ce que finalement, ça, à la base, hein, est-ce que ça s'adressait vraiment aux adultes? Parce que quand il y a quelque chose d'enfantin quand même dans les Miyazaki, même si c'est un peu dark à des moments. Mais,
c'est vrai. Mais
bon, après, écoute, moi je pardonne pas trop.
Oui. J'ai moins d'attentes pour le film Zelda que pour Miyazaki, quoi, parce que le film Zelda, bon, Derek Connolly, quoi.
Non, mais surtout ça a l'air d'être deux bons gros yes man, quoi.
Oui,
c'est surtout ça, parce que Wes Ball là, ou je ne sais plus comment il s'appelle, alors Le Labyrinthe, c'est quand même des films de studio, et La Planète des Singes, ça a quand même l'air d'être fait mais ça a marché, mais si on en refaisait.
Ouais, c'est pas fou.
C'est Disney en plus, du coup.
Oui.
Voilà.
Au moins, je sais pas, j'ai vu des images, les effets spéciaux ont l'air bien faits, mais comme j'y connais rien,
Kong Skull Island est magnifique. En termes d'effets spéciaux. Je veux pas remettre ça, mais.
C'est de l'usine.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un film là où les autres Planète des Singes de Matt Reeves, je pense qu'avaient leur personnalité. Là, j'ai un peu peur que. Ah, ça coince un peu, quoi.
Je vois. Bon, bah, par contre, bien sûr, on n'a pas de date de sortie ni rien, on sait juste que c'est en préparation. Bon.
Écoutez, les gens veulent Tom Holland.
Ouais, ça j'ai.
C'est ça ou Chris Pratt, de toute façon. Donc.
Oui, parce qu'il y a un film Garfield qui sort en mai, et c'est aussi Chris Pratt qui fait la voix.
Ouais, mais Chris Pratt, il est partout.
Sachant qu'il fait déjà la voix de Mario. Bon.
Tu prends, en fait, si tu sais pas qui prendre, tu prends Chris Pratt.
Exactement.
Il fait Emmett dans les Goombie aussi. Tout partout, Chris Pratt est partout.
Dès qu'il y a besoin d'une voix connue pour un personnage déjà connu.
Ouais, ça dure, Chris Pratt.
Voilà, parfait. Eh bien, tiens, on arrive déjà à la dernière actualité du mois. C'est Melvin qui va vous en parler.
Et oui, pour le grand plaisir de Jade, moi, je vais revenir sur les bandes annonces marquantes du mois. Parce qu'on a eu quand même un petit paquet. Donc, tu parlais de Garfield. Donc, on a eu la bande annonce de Garfield, produit par Sony Pictures Animation. Donc, bah, c'est un film qui revient sur la jeunesse de Garfield. Et c'est prévu pour le 17 juillet 2024.
Petit biopic.
Non, mais alors, ça a l'air une belle animation, hein, mais après, c'est Garfield, on connaît, quoi.
Oui. Bon. Je ne sais pas si vous les avez vus, les deux films Garfield des années 2010.
J'en ai vu un, je crois.
Je regardais ça le matin.
Avec cette belle voix de Koé.
Oui, Koé, un VF qui fait la voix. Non, je les avais vus quand j'étais petit. Alors, je n'ai plus aucun souvenir, mais je me rappelle avoir beaucoup aimé. Du coup, là, j'ai beaucoup d'attentes pour le Garfield de Chris Pratt. Il y aura Samuel L. Jackson aussi au casting vocal.
Dis-moi qui fait son père.
Parce qu'il y a le père
de Garfield.
Je sais plus.
Ou le chien. Ça sera encore plus drôle.
Mais il parle pas, le chien.
Oui, c'est vrai.
Si
tu lui files la voix de Samuel Jackson. ensuite, on reste dans l'animation. On a Vice Versa 2, qui est prévu pour le 19 juin 2024. C'est quand même une des sorties les plus attendues de l'année en termes d'animation.
Ça, c'est Pixar qui a besoin d'argent, tout simplement.
Oui, mais ça a l'air pas mal.
Honnêtement, je n'ai aucune attente. Pourquoi ? Parce que le premier avait été réalisé et écrit par Pete Docter, qui est le réalisateur de Là-haut. Qui a fait d'autres films.
Nemo, c'est pas lui.
Il a réalisé Monster et Compagnie aussi. Donc pour moi, c'est un des grands auteurs de Pixar. Et tous ces films sont, pour moi, tous ces films sont des chefs-d'œuvre. On n'en parle pas depuis Docteur parce qu'on n'en a rien à faire. Mais pour moi, c'est un réalisateur d'animation américain exceptionnel.
Mais le problème,
c'est que maintenant, c'est le PDG créatif de Pixar. Du coup, il n'a plus le temps. Et donc, il ne s'est pas impliqué dans Vice Versa 2. Et donc, c'est dommage parce que le premier Vice Versa, en fait, c'était sa vision à lui en tant que père de sa fille qui est en train de grandir. Du coup, c'était un truc personnel et tout. Et c'est pour ça, pour moi, que le premier marchait aussi bien. Mais le deuxième, si c'est ni lui qui le réalise, ni qui l'écrit, est-ce que ça a un intérêt au final ?
Sinon, ils serviront de l'IA pour...
Je fais confiance à Pixar. Moi, j'aime bien Pixar. On verra bien ce qu'ils nous préparent. Mais bon, j'ai un peu peur.
Voilà, les nouvelles émotions ont l'air cool, hein, quand même.
Oui, l'anxiété.
C'est l'anxiété, l'ennui, l'envie et l'embarras.
Petite psychanalyse.
Voilà,
pour les enfants.
c'est sur l'adolescence, du coup, parce que je crois qu'elle a 13 ans de mémoire, Riley. Donc voilà, ça peut être sympa. On attend les annonces de casting, parce que pour le moment, on n'a que Maya Hawke en nouveau personnage, que les autres viennent. Mm-hmm. Et en VF, on ne sait pas. Parce qu'on rappelle que dans le premier, il y avait Pierre Niney et toute sa bande.
Ah oui, je n'ai jamais vu un VF, mais ça devait être quelque chose.
Mais ça fonctionnait très bien.
Ah ouais ?
Ouais. D'accord. Ensuite, un film que très peu de monde va attendre, à part moi, Madame Web.
Ah oui.
Le nouveau film du Sony Pictures The Universe, Spider-Man.
Donc avec Venom et Morbius et tout.
Oui, voilà. 14 février. Et donc c'est sur l'histoire de Cassandra Web. Un personnage, encore une fois, je pense que tout le monde s'en fout un peu. Un peu comme Morbius.
Mais je comprends pas trop pourquoi Sony veut faire un univers. Ça n'intéresse personne. Les films ne font pas d'argent.
Et puis ils sont pas liés. Enfin, Venom, Morbius, c'est pas vraiment lié, quoi. Enfin, je sais pas. Parce qu'en plus, surtout que de base, il doit y avoir Kraven avant. Mais bon, Kraven arrivera après. Avec la grève, était décalé, mais pas Madame Web. Donc, c'est bien que tu peux les voir dans n'importe quel ordre, ça passe.
Oui. C'est vrai qu'il y a un film de Kraven en août 2024, je crois.
Aaron Taylor Johnson. Donc, bon, c'est excusé, j'irai le voir.
De toute façon, ils pourront faire ça de manière illimitée avec tous les comics aussi qui sont sortis, toutes les variations qu'il y a eu.
Voilà.
Donc bon, les sous, ils en auront. Après, au bout d'un moment, ce sera au public de faire des choix.
Venom 3 aussi, l'année prochaine.
Mais heureusement, ils ont pu recommencer le tournage, donc heureusement, on
aura Venom 3. mais les rumeurs annoncent que ça serait que Spider-Man 4 serait lié au Sony Universe. C'est la dernière rumeur en date.
Je suis fatigué.
voilà. Ensuite, on a eu l'abondance de The Fall Guy avec Ryan Gosling, Emily Blunt et Aaron Taylor Johnson, pour mon plus grand plaisir. 1er mai 2024, et c'est une adaptation de L'Homme qui tombe à pic. Série des années 70-80, truc comme ça. Et ça a l'air bien fun, c'est le réel, c'est David Leitch qui a fait Bullet Train et Deadpool 2, je crois. Ou Deadpool 1, carrément, Deadpool, les deux. Ouais. Et ça a l'air bien fun, un film d'action avec Ryan Gosling, on dit pas non. Hein.
Mm-hmm. J'avais bien aimé Bullet Train.
Ça donne un peu dans la même vibe. Voilà.
Il était pas mal Bullet Train.
Oui.
J'avais bien aimé.
Et par contre, il faut aimer les courts-métrages, parce que la bande-annonce dure 3 minutes 30. C'est interminable.
Ouais, tu vois, là, ça, c'est un red flag direct.
Ah ouais, non, mais j'ai vu en entier. Hein. C'est long.
Là, t'as vu tout le film. Hein,
ah oui.
Là, t'as vu tout le film.
Et enfin, je termine sur un film que très peu de monde attend aussi, et qui passe très inaperçu, étrangement, c'est SOS Phantom 2. Enfin, le SOS Phantom, la menace de glace. Le 2 du reboot suite, qui est en fait officiellement le 4. Oui. Mais la bande sortie, toujours avec le même casting, toujours Paul Rudd, toujours Bill Murray, toujours les jeunes, toujours les vieux, et 3 avril 2024.
Et je pense que ça fera des entrées, parce que t'as quand même une commu autour de ça.
Le 3 reboot, tout ça, avait pas tant marché que ça. Hein.
Mais oui, parce que personne ne parle de Ghostbusters, en fait. C'est pas une saga comme... comme, je sais pas, bah, comme Marvel à une époque où tout le monde en parlait. Enfin,
ou Jurassic World.
Ouais, mais c'est quand même un vieux truc. Ce que je veux dire, c'est que tu as une communauté derrière, mais c'est pas, évidemment qui n'est pas actuelle. Ou... Mm-hmm. Mais ça reste culte.
Ouais, tu vois, pas faux.
Donc après, peut-être. Hein, après, c'est pas parce que. C'est vrai que dans ce genre de film-là, s'il n'y a pas une grosse com derrière, ça peut faire un bide. Mais après, tu as eu des films avec des coms peut-être pas avancés, mais sur le mois d'avant, ça a pu faire exploser quelques... Je sais pas.
Bah après, la saga s'est un peu tirée une balle dans le pied avec le remake féminin, qui n'a pas vraiment plu. Enfin, moi, je l'aime bien, mais je crois que là, ils ont perdu une bonne partie du public. Et comme dans celui d'avant, ils nous ont recollé Gozer en méchant, ce quitte à faire trois films, t'en mets trois fois Gozer. Pourquoi pas? Là, au moins, ça change pour le prochain. On a un nouveau dieu, je ne sais pas ce que c'est, qui fait de la glace, quoi. Il faut éviter une ère glaciaire, si vous voulez le pitch précis. Ah ouais. Et voilà.
Après, moi, comment il s'appelait? Le After
Life, ouais, ou l'héritage, ils sont bien foulés.
C'était c'était vraiment un blockbuster à regarder en débranchant le cerveau, mais j'ai passé un
bon moment,
quoi.
Il y a du bon. C'est
le plus basique, quoi.
En tant que grand connaisseur de la saga, parce que je l'ai quand même vu un paquet de fois, il a du bon dans le sens où ça reprend très bien l'original. Enfin, je veux dire, c'était Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman, donc le fils du réalisateur des premiers, il reprend bien l'univers, il sait ce qu'il en fait, ça marche. Par contre, c'était le pitch du 1, mais dans le désert, quoi.
Oui.
Du coup, c'était vraiment pas très innovant. Alors, au départ, je me suis dit, c'est cool, par contre, s'il fait un 2. Ça va être. Il sait ce qu'il fait avec, donc s'il fait une nouvelle histoire, ça va être intéressant. Bon, ben, il est que producteur. Il ne réalise pas.
Eh oui.
Chouette.
Ça, c'est inquiétant, je trouve. Quand même.
Ouais, là, j'ai fait. Bon, là, ça m'a. Ah, t'as un peu redescendu. Mmh. Donc, ça rend curieux. En fait, je suis curieux. J'irai le voir, mais. Mais voilà, voilà.
Je vois. Mais de toute façon, je pense que ce sera forcément un bon moment. On ne s'ennuiera pas. Après, ça ne va pas casser trop à un canard, mais voilà. C'est parce qu'on demande à un Ghostbuster. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Et ben voilà, pour la première émission de l'année, on a déjà terminé. 42 minutes de plaisir pour nos auditeurs et pour nous, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à aller vous renseigner tous ces films qu'on évoque. Et on se retrouve le mois prochain, en décembre, pour encore plus de sorties, encore plus d'actu. Merci beaucoup, Jade et Melvin.
Merci à toi.
Merci à toi.
Et puis, au revoir.
Au revoir.
Au revoir tout le monde.